1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017, vivre la fraternité.
Les échanges précédents, Christelle Bernat, ont montré combien il importe de ne pas s'en tenir à 1517. Mais aujourd'hui, en 2017, que commémorons-nous exactement ?
Disons que 1517 n'est ni un commencement ni une fin, ce qui ne veut pas dire que cette date est de moindre importance ou qu'elle soit semblable à une autre. 1517 demeure néanmoins une étape clé. Et je crois qu'en 2017, on commémore surtout une protestation, celle des 95 thèses contre la puissance supposée des indulgences que Luther considère être une pratique des plus néfastes à la chrétienté.
Mais de quoi s'agit-il exactement alors ?
Eh bien, le principe majeur de l'indulgence consiste à remettre la peine du pénitent moyennant finance. Et pour saisir la teneur réelle du débat, rappelons peut-être que le cadre du sacrement de pénitence au XVIe siècle est un cadre qui distingue trois moments, trois composantes de la démarche pénitentielle. D'une part, il y a la contrition, c'est-à-dire le regret, l'acte de repentance. D'autre part, la confession, c'est-à-dire l'aveu et la reconnaissance de la faute, qui est en général suivi de l'absolution du prêtre, qui est le sacrement du pardon, et qui est censé libérer le pécheur de la peine éternelle, de l'enfer, mais pas nécessairement des peines temporelles, autrement dit des peines terrestres, ni même des peines du purgatoire. Et enfin, troisième composante de cette démarche pénitentielle, la satisfaction, qui désigne l'accomplissement de la peine temporelle, c'est-à-dire de la punition en vue de la réparation. L'indulgence, qui avant d'être une doctrine, fut une pratique précoce, née au IIIe siècle et qui s'est progressivement développée, consiste précisément à supprimer ce troisième temps de la satisfaction. Et formulée à l'origine pour les acteurs des croisades, eh bien cette indulgence en vient à s'étendre progressivement à tous les chrétiens. Elle est fixée par une bulle au Xe siècle de Léon VI et elle est alors considérée comme l'application par le pape, qui est pris pour vicaire du Christ, comme l'application des trésors des mérites du Christ à ceux qui, contrits, ont confessé leurs fautes. Ou pour le dire autrement, la papauté pense pouvoir délivrer des indulgences sur la base des mérites du Christ. L'Église romaine se fait ainsi dispensatrice de la rédemption en distribuant aux fidèles repentants la rémission du Fils sur la croix. Et cette indulgence, qui est décrétée au XVIe siècle d'abord par Jules II, puis prolongée par Léon X, n'est pas prêchée en saxe électorale, c'est-à-dire là où réside Luther, mais à proximité. Et néanmoins, son succès va alerter Luther, qui entreprend de réagir contre la négociation ecclésiastique de la grâce de Dieu, en dénonçant précisément le principe de la vente des indulgences comme une trahison de l'Évangile. Luther entend d'ailleurs s'attaquer à ce qu'il perçoit comme un trafic, d'où la rédaction de ses thèses théologiques contre la vertu prétendue des indulgences.
C'est le fameux affichage des thèses sur les ports du château de Wittenberg.
Eh bien, rien n'indique que Luther les ait réellement affichées comme le voudrait la légende. Les historiens sont aujourd'hui encore partagés sur le sujet. En revanche, ce qui est assuré, c'est qu'il les a adressées à l'archevêque de Mayence, qui, en accord avec le pape, lui supervisait la prédication de cette indulgence dans le Saint-Empire. Alors, au fond, qu'elle fût ou non affichée n'est sans doute pas le plus important. Ce qui l'est bien davantage pour nous, c'est qu'en quelques semaines à peine, c'est-à-dire avant même que Rome ait le temps de réagir, les thèses de Luther étaient diffusées et même traduites, du latin en allemand dans plusieurs villes, en projetant le débat hors du cercle des théologiens pour le placer, vous le voyez, d'emblée sur la scène publique. Et le texte rencontre en effet un écho inouï dans toute l'Allemagne.
Mais que disent précisément ces thèses contre les indulgences ?
Eh bien, je crois qu'on peut regrouper en 4-5 points essentiels la critique luthérienne. D'abord, Luther entend réfuter les prétentions du pape en matière de rémission des peines qu'il considère du ressort exclusif de Dieu. Le pouvoir et la puissance du pontife, dit-il, ne peuvent s'étendre que sur l'application des lois dictées par Rome. Autrement dit, sur les lois humaines que le pape a lui-même promulguées concernant l'Église terrestre. Mais le pape ne peut pas, au contraire, interférer dans les peines de Dieu, d'où selon Luther, la vacuité des indulgences. Luther s'élève aussi contre le marchandage des indulgences, qui profite de la peur de l'enfer et de l'angoisse de la mort, dont au passage d'ailleurs, il livre une nouvelle compréhension en leur faisant échapper à l'emprise du pape, mais aussi de l'Église et des lois canoniques. Hein. Comment ? Eh bien, en martelant que seul l'amour pour Dieu, et donc la confiance en lui, peut apaiser la crainte de la mort. Tandis qu'aucune indulgence ne saurait procurer la quiétude, sinon de manière totalement illusoire. La paix du chrétien, affirme Luther, procède de son amour pour le Créateur. Autrement dit, la rémission des fautes ne réside pas dans l'indulgence du pape, mais dans la conversion sincère des cœurs qui seul procure, selon Luther, la paix. Et Luther veut également faire entendre l'aspect blasphématoire de l'indulgence, hein, du fait que le pape s'arroge un droit de surcroît payant sur un don accordé gratuitement par Dieu à tout repentant sincère. Tout chrétien, dit-il, vraiment contrit, hein, a droit à la rémission entière de la peine et du péché, même sans l'être d'indulgence. Et si tant est que le pape ait un tel pouvoir de rémission, pourquoi le marchander ? Luther donc dénonce l'opération pécuniaire et la supercherie romaine, et il en profite pour exalter la supériorité du Christ, et ce faisant, il dénonce l'aspect sacrilège du pouvoir prétendu des indulgences. Dire que la croix ornée des armes du pape égale la croix du Christ, c'est un blasphème. Et Luther défend qu'il ne peut y avoir assimilation entre le Christ et le pape. Se prétendre son vicaire n'en fait pas pour autant un égal. Mais plus fondamentalement, et je crois qu'il faut insister sur ce point-là, le moine de Wittenberg tient surtout à démontrer combien cette doctrine des indulgences est perverse dès lors qu'en se substituant à la contrition du pécheur, elle affranchit en quelque sorte le chrétien de toute forme de pénitence, une pénitence que Luther pense au contraire être au cœur de la pratique chrétienne. Or, la conception humaine du rachat de la faute risque de détourner l'homme de son sauveur, ce dernier se fourvoyant dans une pratique qui tend à l'affranchir d'une authentique repentance. L'envers de l'indulgence, dit Luther, c'est la pénitence, cœur battant, hein, selon lui, du métier de chrétien. Et c'est à ce titre qu'il qualifie la doctrine des indulgences de doctrine antichrétienne. Lorsque le billet de confession s'apparente à une sorte de passeport pour le royaume de Dieu, hein, permettant au pécheur de se dérober à sa démarche de contrition, eh bien là, c'est une pratique, dit-il, attentatoire au salut dans la mesure où elle le détourne de sa responsabilité et le dépouille en quelque sorte de sa foi. Hein. Et il faut enseigner, dit-il aux chrétiens, non sans une ironie mordante, que les indulgences du pape sont bonnes si on ne s'y confie pas, hein, mais des plus funestes si par elles ils perdent la crainte de Dieu. Et enfin, Luther martèle que le salut est indépendant des mérites des hommes et de la volonté du chef terrestre de l'Église. Que le pape puisse croire sincèrement ou non à la vertu des indulgences ne les rend pas, dit-il, plus efficaces. L'indulgence ne saurait remettre la faute du plus petit péché. Et Luther réfute là l'idée d'une acquisition du salut qui, selon lui, ne dépend que de la grâce de Dieu. Donc, à diverses reprises, Luther tente de ménager tout de même l'évêque de Rome, mais au fond, malgré ce jeu rhétorique, eh bien, il veut faire considérer le préjudice de la doctrine des indulgences pour toute la chrétienté, ce à quoi d'ailleurs il parvient. Et certaines thèses sont une première affirmation du principe réformateur du sola scriptura qui exalte l'évangile et qui exalte également la prédication de la parole de Dieu, d'où le fidèle doit puiser la foi et la vigueur de sa piété. Pointe aussi dans ces 95 thèses le principe de la grâce seule que Luther défend contre la logique des œuvres méritoires. Et ces 95 thèses s'achèvent sur l'affirmation centrale selon laquelle le Christ est le chef unique des chrétiens, hein, ce qui était une façon de reléguer le pape. Donc, l'affaire Luther est lancée. Pourquoi ? Eh bien, parce que Luther, dont les thèses se répandent comme une traînée de poudre, ne cherche pas à exposer à l'archevêque une dispute classique. Hein. Ils ne veulent pas, ces thèses ne se veulent pas une discussion théologique technique, universitaire, réservée à des initiés, mais visent un fort retentissement. Et de fait, hein, le fort écho effraie l'archevêque de Mayence. En décembre suivant, il dénonce les thèses élaborées par Luther et va même déclencher une instruction, c'est-à-dire l'ouverture d'un procès en hérésie qui va être suivi de près par deux grands controversistes. Et Luther, qui est très vite sommé de se rétracter, finit par être excommunié par Rome en janvier 1521, puis mis au banc de l'Empire à l'issue de la diète de Worms d'avril 1521. Mais très vite, il aurait pu à ce moment-là disparaître de la scène, mais face au danger d'arrestation, Frédéric de Saxe, qui est son protecteur, le fait enlever et le tient caché dans son château de la Warburg jusqu'en mars 1522. Donc, à ce moment-là, Luther passe pour mort, et néanmoins, la publication, la circulation très intense de pamphlets, à la fois qui lui sont favorables, mais aussi défavorables, continue néanmoins de faire résonner son interpellation dans tout l'Empire, et l'on peut dire que la révolution luthérienne est en marche.
Merci Christelle Bernat.
Merci à vous.
Émission produite par FM+, 91 FM à Montpellier.
1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017. Vivre la fraternité.